Bonjour, vous me demandez d'écrire par email mes réponses. Justement, on est en plein dans le vif du sujet. Pour moi, c'est compliqué. Je me permets de faire un vocal. Par rapport au parcours personnel, pour répondre à vos questions, quand avez-vous compris que vous étiez dyslexique ou dysorthographique? Je suis d'une génération où c'était pas du tout fréquent de faire les tests et d'avoir des diagnostics qui auront été objectivés et étudiés. Moi, j'ai compris que j'avais des difficultés d'abord à la lecture quand j'ai changé d'école en milieu de CE1, où la professeure m'avait dit que j'avais des difficultés, a fait savoir à mes parents que c'était plus compliqué pour moi. Sur le coup, je crois que j'ai un peu mis ça sur le changement d'école, d'adaptation et peut-être de pédagogie. Petit à petit, en fait, au cours du primaire, la lecture a pour moi toujours été extrêmement compliquée, jusqu'à ce que finalement, ça traîne. Et en CM2, j'ai fait de l'orthophonie. La dysorthographie, ça a toujours été le cas. Moi, je viens d'une famille où les gens sont lettrés et littéraires. Et donc, je suis la troisième de la fratrie. Tout le monde se moquait de moi. C'était extrêmement drôle, mes erreurs. Donc, la dysorthographie, et ça, autant la lecture, j'y prends du plaisir et je lis tous les jours, autant l'orthographe, ça reste pour moi un crève-cœur. Je ne sais pas comment on écrit les mots. J'arrive maintenant à les lire et à avoir une certaine mémoire photographique. Mais écrire un mot, c'est difficile. Et maintenant que je vis dans trois langues, entre le français, l'anglais et l'espagnol, c'est encore plus compliqué. Comment cela se manifestait-il pour vous à l'école et aujourd'hui dans le travail? Concrètement, j'étais lente et je suis toujours lente. Donc la lenteur à l'école, par exemple, pour faire un exercice ou des examens, je crois que j'ai jamais fini un examen puisque il n'y avait pas de mise en place de PAP. Je suis de cette génération où on n'avait pas de tiers temps ou de questions en moins. Donc je mettais plus de temps à lire les consignes, je mettais plus de temps à répondre et à formuler mes réponses et à écrire. Donc très clairement à l'école, j'étais plus lente, je finissais pas dans les temps. En plus, j'avais besoin, pour pas faire d'erreur, parce que je suis devenue consciencieuse, voire méticuleuse, ça reste encore aujourd'hui, j'ai besoin de vérifier et je reformule. Et c'est pour ça que quand vous me demandez de le faire par écrit, ça m'est compliqué. Parce que je sais, là, je me suis fait des petites notes avec des mots-clés. Je peux synthétiser mes idées et par oral, ça me pose aucun problème. Mais si maintenant, je dois vous écrire les phrases, je sais que c'est un truc qui va me prendre 5 heures. Comment ça se manifeste? Donc avec de la lenteur, une grande vérification. Du coup, ça m'a permis d'être très appliquée, très minutieuse. Ça, c'est plutôt le point positif, aussi bien dans mon parcours scolaire que là, dans ma vie de tous les jours et dans le travail. Quel souvenir vous a le plus marqué dans votre scolarité ou au travail? Dans la scolarité, je dirais déjà dans la famille, les petites vannes qui sont des mini-humiliations permanentes, notamment par rapport à la dysorthographie, c'était pas hyper rigolo. À l'école, je dirais, j'aimais pas la lecture. J'ai mis longtemps à aimer la lecture et j'avais peur de lire. J'avais une espèce de peur panique de lire à l'oral. Et dans les différentes classes, je pense notamment aux primaires, souvent on lisait une phrase chacun. Donc j'essayais d'anticiper pour savoir quelle allait être la phrase ou le paragraphe qui allait me tomber dessus et je le lisais à l'avance pour être sûr que j'allais pas trop buter sur les mots. Donc ça, c'était le côté difficile de ce qui m'a marqué à l'école ou dans la famille. Et par contre, les bons côtés, ça s'est déclenché en seconde. J'aurais envie de dire à tous les enfants qui en souffrent, qu'ils soient au primaire ou au collège, il y a peut-être un moment où vous aurez un déclic. Moi, j'en ai eu un en seconde où j'ai eu une nouvelle amie qui adorait lire et une professeure de français. Grâce à cette amie Anne, j'ai pu développer le goût de la lecture et de partager un livre lu en commun. Donc ça m'a donné le goût de la lecture. Et par rapport au professeur de français, elle était extrêmement, déjà, empathique et professionnelle. Mais surtout, elle m'a donné une espèce de rigueur pour, je pense que j'en avais besoin, à savoir, la lecture, ça nous permet aussi d'essayer de comprendre ce que l'auteur a voulu nous dire. Et j'ai beaucoup aimé les études de texte qu'on avait fait ou les études de roman, avec essayer de réfléchir autour du livre, d'analyser. Et ça, j'avais trouvé ça génial en seconde, à l'arrivée au lycée, de pas juste lire pour lire, mais d'essayer de comprendre ce que l'auteur avait voulu transmettre comme message. Ensuite, sur l'école, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous en tant qu'élève? Excusez-moi, peut-être que j'ai déjà répondu. je dirais le plus difficile, c'est, mais ça c'était pas en tant qu'élève, c'était ce que je vous disais dans la famille, les moqueries et l'humiliation par rapport à la dysorthographie, parce que les gens trouvent ça plutôt rigolo de... t'as vu comment elle écrit ce mot, et c'est resté loin, hein. Je crois que moi, dans ma famille, ils ont toujours pas compris, puisque pour mon enterrement de vie de jeune fille, mes amis et sœurs ont organisé une dictée de pivot. Ils ont rien trouvé de plus rigolo qu'une dernière petite pique. Donc ça, c'est ce qui a été difficile. Et puis, ben, vous voyez, les difficultés à la lecture, ça fait que, ben, on est lent et ça coûte. Ça coûte, mais d'un autre côté, ça nous permet aussi développer d'autres stratégies, j'ai envie de dire, et aussi de se forger le caractère. Y a-t-il eu des enseignants ou des méthodes qui vous ont particulièrement aidé? Oui, ma professeure de français, je dirais, à partir de la seconde. Des méthodes, ben, comme je disais tout à l'heure, on est d'une génération où, non, c'était pas diagnostiqué, donc il y avait pas de méthode. Mais sans le savoir, je dirais, de manière inconsciente, oui, j'ai développé clairement des aptitudes qui sont plus un esprit de synthèse, arriver à bien synthétiser, et des aptitudes plus à l'oral. Je savais que j'aimais pas lire, par contre, qu'à l'école, je me forçais un peu à passer à l'oral pour faire la poésie, pour aller écrire au tableau la réponse. J'étais souvent volontaire. Et en plus, je me souviens que non seulement j'écrivais au tableau, mais en plus, j'expliquais déjà, de manière complètement inconsciente, hein, mais oralement, je disais à voix haute ce que, pourquoi j'écrivais ça.
Par rapport aux méthodes qui m'ont aidée, très clairement, je me souviens quand j'étais enfant, je pense que je dois avoir une bonne mémoire visuelle, photographique, parce que je m'aidais pas mal d'images. Je ne sais pas s'il y avait une poésie ou un texte à apprendre, ça m'est arrivé de faire des petits dessins séquentiels pour illustrer dans quel ordre devaient venir les différentes strophes ou les différents paragraphes. Je me fais souvent soit des petits dessins, soit des images qui me font penser à l'idée. Enfin, moi, je ne marche pas par mots-clés, je marche par système visuel. Aussi, le code couleur, ça m'avait, notamment pendant mes études universitaires, j'avais instauré tout un code couleur sur la sérologie, les traitements, l'idée étant de visuellement aller directement à l'idée principale et aux mots-clés sans avoir à relire toutes les phrases et à rentrer dans l'écriture même des mots et du coup sa transcription à l'écrit. Le code couleur me disait déjà dans quel chapitre, dans quel thème on était, dans quel lexique on était, et ensuite aller directement me mettre en évidence le mot qu'il fallait lire. Il y a d'autres enfants, là, j'y pense aux tests qui ont été faits chez mon fils, lui il semble qu'il a plutôt une bonne mémoire auditive. C'est vrai que du coup, plutôt que de lire les textes, ce sera plutôt les écouter qui l'aidera à mémoriser. Chacun va pouvoir comme ça, j'imagine, développer en fonction de ses capacités où il est le plus à l'aise et le plus fort, des moyens pour compenser. Je fais souvent des présentations orales et des PowerPoint, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lignes, il n'y a pas beaucoup de phrases. Je mets des schémas, je me fais aussi des graphiques ou des flowcharts. Ça m'aide pas mal à retenir, et ensuite à partir des quelques idées, on peut développer assez facilement l'idée qu'on veut évoquer.
Là, très clairement, je fais très souvent des conférences où j'ai des PowerPoint qui sont assez synthétiques. Il n'y a pas beaucoup de blabla sur mes diapos, ce qui permet de retenir les mots-clés sur chaque diapo. Je suis assez confortable à parler en public, même si on a tous un peu peur de parler devant tout le monde. Je dirais que c'est probablement par rapport à d'autres personnes, c'est quelque chose que j'ai développé en compensation à des difficultés que me porterait la communication écrite. Ça m'a probablement aussi aidé à avoir un esprit de synthèse.
Et autre petite méthode qui aussi me sauve la vie au quotidien, d'abord j'ai appris à écrire vite. Alors les gens ne savent pas me relire, hein. Ça c'est assez classique. Mais moi au moins, ça m'a permis de prendre des notes à l'université rapidement, sans avoir nécessairement à avoir un dictaphone. Cela dit, ça se faisait pas mal. J'avais pas mal de mes collègues, parce que les profs parlaient assez vite, qui enregistraient le cours et ensuite, les choses qu'ils n'avaient pas pu noter, ils réécoutaient l'enregistrement audio. Donc, écrire vite et des abréviations. Alors, par rapport aux examens et dans les différentes évaluations au cours de la scolarité, je ne sais pas si c'est autorisé de mettre des abréviations, mais en tout cas, moi, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que ça m'aide et ça compense la lenteur que j'ai à déchiffrer pour la lecture. Les trucs qui, moi, m'ont aidé dans le cours de mes études, c'est d'aller en cours. Je ne l'ai pas réalisé tout de suite, mais les fois où je n'ai pas assisté au cours, parce qu'on est malade, quelle que soit la raison, parce qu'on va pas en cours, à tous les cours quand on est à l'université, et qu'ensuite je devais lire soit le polycopier d'un prof, et a fortiori les notes d'un camarade, pour moi ça m'était vachement plus compliqué de comprendre quels étaient les points importants, et du coup je mettais plus de temps à mémoriser la leçon, d'avoir à la lire. Est-ce que ça rentre dans la dyslexie, ou est-ce que c'est pas le cas pour tout le monde? J'en sais rien, mais très clairement, j'avais beaucoup, beaucoup plus de facilité d'apprentissage en allant en cours, en y assistant, parce que je comprenais directement où voulaient en venir les profs, et relire mes notes, ou d'ailleurs les notes de quelqu'un qui les aurait prises, ou le polycopier. Tout de suite, ça avait un sens, et ça rendait l'apprentissage beaucoup, beaucoup plus rapide et efficace. Avec le recul, qu'est-ce qui aurait pu être mis en place pour mieux vous accompagner? Clairement, pour moi, si ça avait été diagnostiqué, bah, les tiers-temps, pour pas me mettre en échec de pas finir les tests et les examens, je pense que ça m'aurait aidé. Mais cela dit, je pense que j'ai la chance de pas être complètement débile et d'être extrêmement studieuse, disciplinée, voire acharnée. J'ai toujours été une battante. Je pense qu'il y a d'autres enfants qui vont être aussi dyslexiques et dysorthographiques, qui pourront avoir d'autres troubles et qui n'auront pas forcément la chance que moi j'ai eue de pouvoir compenser. Mais très clairement, c'est vrai que ça m'a permis de forger mon caractère, de me pousser à aller un peu plus loin, de vaincre mes peurs. Mais même encore aujourd'hui, hein, c'est vrai que quand j'ai des articles à lire, il faut que je me pose, il faut que je m'assoie, il faut que j'aie toute ma concentration. Par rapport à l'hypersensibilité, comment elle se manifeste au quotidien? Elle se manifeste déjà souvent. Elle peut se manifester essentiellement pour une hyperémotivité depuis toute petite. Là aussi, ça a étonné, voire faisait marrer tout le monde, que j'étais extrêmement émotive et j'avais tendance à pleurer assez facilement. Et c'est d'ailleurs très souvent le cas, même aujourd'hui à l'âge adulte. Hein. Bon, mon entourage, il le sait, donc ils se formalisent pas, ils le prennent pas forcément pour eux, pour quelque chose qu'ils auraient fait ou pas fait. Ils savent aussi que c'est ma personnalité, mais c'est vrai que ça peut un peu déconcerter. Ce qui, moi, me perturbe un peu plus, c'est parfois une certaine irritabilité. Il y a des choses, notamment quand je suis fatiguée, que je ne supporte pas. Des bruits, des sons notamment. Ça peut être des odeurs, mais en général, c'est surtout via le son quand je suis fatiguée. Et ça, à part me mettre dans ma bulle, il n'y a pas trop d'autres moyens. Donc là aussi, il faut que l'entourage comprenne que, voilà, je fais ma sauvageonne de temps en temps. Est-ce une force, un défi ou les deux? Alors clairement, si je pouvais ne pas avoir cette espèce d'agression, elle n'est pas permanente, elle n'est pas quotidienne, mais disons assez fréquente, ça me rendrait la vie quand même et la vie de mes proches plus facile. C'est plutôt un défi. Une force, non, j'en ai pas encore tiré une force. Mais bon, déjà, il faut arriver à mettre le doigt dessus. Il faut arriver à ce que les autres autour de nous comprennent et puis nous acceptent comme on est.
J'y verrai un point positif, c'est que ça me rend empathique. Enfin, j'imagine que c'est l'hypersensibilité qui me rend proche des gens. Je comprends ce qu'ils ressentent quand ils sont dans la peine. Paradoxalement, pas particulièrement quand ils sont dans la joie et dans l'allégresse, mais c'est quelqu'un qui est pas bien, je le ressens tout de suite, et ça m'aide par rapport à mes patientes. Elles me font très souvent le commentaire, et elles reviennent. C'est d'ailleurs la preuve qu'elles sont contentes de l'attention qu'elles ont reçue. C'est qu'elles me disent: vous êtes vachement humaine. D'abord, vous nous avez expliqué très bien, on a compris. C'est rare, il n'y a jamais eu un médecin qui m'expliquait les trucs de manière aussi simple. Et je crois que, voilà, c'est parce que je me mets à leur place et que je ressens cette espèce instinctivement d'angoisse que certaines personnes peuvent avoir, comme si elles m'étaient un peu transférées. Je pense que je peux plus facilement aider certaines personnes.
Comment avez-vous appris à le gérer? Voilà, ben, je crois que j'ai déjà répondu. Quel message aimeriez-vous transmettre aux élèves qui rencontrent des difficultés similaires? Ma tante est aussi dyslexique, mon cousin est aussi dyslexique. On est tous différents. Il faut qu'on arrive à s'accepter comme on est. C'est pas grave. Maintenant, on a la chance, un, de le diagnostiquer. Deux, que l'école s'adapte.
On a aussi la possibilité, avec des méthodes plus modernes, d'aimer la lecture avec des audios. Moi, ça n'existait pas du tout de mon temps. Enfin, j'imagine que ça existait pour les aveugles, mais en tout cas, c'était pas diffusé. Faut pas se fermer, faut pas se dire que la lecture, ça va être horrible et horrible toute la vie, parce que dans les livres, même si tous ces mots alignés les uns à côté des autres et ligne après ligne, c'est un peu angoissant, il y a vraiment des phrases qui sont super et qui nous aident à nous construire. Et donc, c'est pas grave si vous les lisez pas, écoutez-les, vous fermez pas. La littérature, c'est vraiment quelque chose qui nous ouvre d'autres mondes. Donc, même si vous êtes dyslexique et que vous aimez pas la lecture, trouvez d'autres moyens de découvrir ce que les auteurs ont à vous apprendre.
En conclusion, ce que je voudrais dire à tous les enfants, enfants, adolescents, et même les adultes qui se trouvent en difficulté, parce qu'ils ont un apprentissage atypique, parce que l'école n'est pas toujours adaptée à certains troubles de l'apprentissage, même si c'est quand même mieux. Je pense que quelque chose qui est important à vraiment, vraiment mettre en place, c'est la confiance en soi. C'est pas grave si on apprend différemment, c'est pas grave si on est différent, on n'est pas moins bien. Si moi, mon trouble avait été identifié et diagnostiqué quand j'étais enfant, si j'avais su que c'était pas moi le problème à proprement parler, j'aurais peut-être été un peu plus détendue, un peu moins perfectionniste. Alors, c'est pas mal d'être perfectionniste, mais des fois, c'est quand même un petit peu compliqué à gérer. Et puis bon, des fois, les choses, il suffit qu'elles soient faites. Elles sont pas obligées d'être faites de manière parfaite parce que ça bouffe un peu le quotidien. Le message que j'aimerais faire passer, c'est ayez confiance en vous. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire si vous ne croyez pas en vous. Donc, c'est pas grave si on a des difficultés à lire, à comprendre, à se concentrer, à écrire. Il y a tellement de choses absolument merveilleuses qu'on peut faire dans la vie qu'il ne faut pas s'arrêter à la façon dont l'école ou vos parents ou votre entourage a envie que vous appreniez. Essayez de voir déjà ce qu'il y a de beau autour de vous. Ayez confiance en vous.
Merci beaucoup. Au revoir.